OK, si je peux avoir votre attention. Romains au chapitre 7, c'est l'endroit où nous sommes rendus. Nous allons ensemble dans ce beau chapitre de la parole de Dieu. On va lire les versets 1 à 6. Ça nous introduit avec des éléments de base. Mais vraiment, je veux situer du contexte par rapport à Romains 7, là. Fait qu'on met la table. On va prendre notre temps pour embarquer dans ce chapitre très important à comprendre. T'sais, Romains 6, 7, 8, c'est tellement clé pour la vie chrétienne, la compréhension du livre de Romains, mais aussi pour la vie chrétienne. Donc, on peut lire au verset 1, Romains 7, 1. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Et là, il illustre. « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été appelés par le corps de Christ, par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non de la lettre qui a vieilli. » J'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Je veux parler du ministère unique de Romains 7 dans la vie d'un chrétien, mais je vais clarifier une affaire en partant. Quand ça parle au verset 2 par illustration, c'est une femme qui est mariée. Elle est liée à son mari tant qu'il est vivant, s'il meurt. Puis là, ça dit, si elle se marie de son vivant, elle est adultère. Je veux juste qualifier ça un peu. Parce que il y a des gens qui vont partir de ce verset-là et dire c'est impossible pour quelqu'un de se remarier légitimement tant que la personne n'est pas morte. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je crois que ce verset-là est donné par illustration et qu'il y a plus sur l'enseignement du mariage que juste ça. Puis le but de ce passage-là, c'est vraiment pour illustrer Monsieur Loi, Monsieur Grâce, dégagé de un par la mort de l'autre. En tout cas, tout ça vraiment ici, on va prendre le temps de l'expliquer, mais je veux juste vous dire ici que il y a des qualifications pour un mariage légitime, un divorce légitime, qui sont couvertes dans d'autres endroits de la parole de Dieu, mais ici, l'enseignement, c'est vraiment pour enseigner quelque chose concernant la loi. Parce que autant que le chapitre 6 nous parlait de notre union avec Christ, puis bon, toute la question du péché, comment on peut vaincre le péché dans notre vie, bien là, ici, on tombe dans un autre sujet. Mais par rapport au même problème, le péché, parce que vous avez vu, hein, le péché, verset... « Car lorsque nous étions dans la chair, ça, c'est une expression pour parler lorsqu'on n'était pas sauvé. Okay? C'est pas comme « Ah, là, j'ai mal agi, là, j'ai agi dans la chair. » Non, ça réfère à l'état de la personne non régénérée. « Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, puis regardez ce que ça dit, provoquées par la loi. » C'est pas que la loi est mauvaise, mais dis à quelqu'un « Fais-le pas. » Puis dis-toi toi-même « Je vais essayer de pas faire ça, pas faire ça, puis je vais essayer de faire ça, faire ça. » C'est la même façon qu'on le fait, ça manifeste. Tu sais, pour quelqu'un de perdu, c'est justement ça le but de la loi, ça manifeste le péché en nous. Ça va en parler plus loin. Donc, c'est vraiment ici, là, pour clarifier, vraiment Paul est dans un enseignement sur le rôle de la loi, tout aussi par rapport à la grâce, au régime nouveau de l'esprit, puis tout ça. Donc, je voulais juste clarifier ça en partant, mais je veux vous donner une vue d'ensemble aussi de Romains 7, le message dont ça nous parle. Je dirais que Romains 7, c'est tellement important qu'on comprenne le contexte parce que souvent, il y a différentes controverses ou, disons, plusieurs interprétations qui diffèrent. Et donc, des fois, ça ne fait pas l'unanimité comment on va interpréter Romains 7. Puis là, je ne parle pas de l'exemple que je viens de donner par rapport au divorce, mais tout même par rapport au verset 14 à la fin, est-ce que c'était-tu, ça part-tu d'un non-sauvé, ça part-tu d'un chrétien charnel, ça part-tu d'un chrétien spirituel, puis ça lutte dans la vie? Bon, tu sais, il y a tout... Romains 7, là, il y a plusieurs points qui vont achoper, puis je dirais, beaucoup va provenir aussi du fait comment on comprend notre union avec Christ. Donc, comment j'arrive dans Romains 7, ça va dépendre comment je suis sorti de Romains 6. Si je suis sorti de Romains 6 en comprenant la vie à la lumière de mon union avec Christ, de ce qu'il a fait de moi, ben, je vais arriver dans Romains 7 avec la compréhension adéquate. OK? Bon. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de voir comment il y a une grande bénédiction à comprendre Romains 7 parce que ça nous aide à vraiment comprendre la vie échangée. Il faut bien arriver de Romains 6 pour comprendre Romains 7, mais aussi quand on comprend bien Romains 7, ça nous arrive à arriver adéquatement dans Romains 8. Parce que c'est quoi la fin de Romains 7? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est la bonne conclusion à laquelle venir si on voulait se servir de la loi pour être un bon chrétien. Misérable. Puis ça pose la bonne question, qui me délivrera? C'est pas un quoi, c'est pas un comment, c'est pas une méthode, c'est un qui. Puis ça donne la bonne réponse, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, tu sais, si on a fait comme faut l'interprétation de Romains 7, puis on arrive comme Paul à ce point-là, on est prêt à rentrer dans Romains 8 de la bonne manière. OK? Donc, ce que j'aimerais qu'on voit simplement, là, et on va prendre notre temps, on va pas avoir le temps de tout voir ça, mais j'aimerais qu'on regarde là, quatre clés d'interprétation du chapitre 7 de Romains, vraiment pour arriver à bien comprendre. Je vous les donne d'emblée, puis on va les décortiquer après ça, un après l'autre. D'abord, c'est important de comprendre, puis j'ai commencé à en parler, mais le contexte général de Romains 7 dans l'Épître aux Romains. Comprendre aussi les mauvaises compréhensions de Romains 7. Comprendre aussi c'est quoi l'idée maîtresse. C'est quoi le point principal que Paul communique dans Romains 7, bien, que le Saint-Esprit. Puis aussi, à la lumière de ça, bien, comment ça s'applique à ma vie. OK? Fait que ils sont imbriqués, les uns vont avec l'autre, mais on va s'en aller avec ça pour bien comprendre ici ce qui est communiqué. Et comprenons, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, c'est lui qui illumine nos cœurs, comme on l'a vu ce matin, hein? Comprendre ce qu'on est, puis comprendre qui Dieu est. Et Romains 7 fait partie des instruments de Dieu que le Saint-Esprit utilise pour nous amener à ce point-là. Donc, c'est ça. Lorsque on comprend ça de la bonne manière, c'est déterminant par rapport à comment on voit la vie chrétienne et comment on vit la vie chrétienne. OK? Donc, première question qu'on se pose, comment comprendre le contexte de Romains 7 à la lumière plus large de Romains en général? Si je vous dis, c'est quoi le thème de Romains? Vous pouvez me répondre avec un mot. Ben, puis, un mot, mais vous pouvez en rajouter de quelque chose. Romains, ça parle de quoi? Un mot. Justice de Dieu. OK? Fait que la justice, mais pas n'importe laquelle, de Dieu. C'est vraiment, tu sais, on dit la justification par la foi, mais ça parle, tu sais, que Dieu, tout émane de ça, OK? Puis, dans le fond, l'ouverture de Romains, ça dit comment personne n'a cette justice-là. Autant les Juifs, que autant les païens, là, Romains 1, que les Juifs, qu'eux autres avaient la loi, mais ils n'étaient pas plus justes, OK? Il n'y avait pas plus de justice en eux-mêmes. Donc, tout le monde a besoin de la justice de Dieu. C'est la condamnation universelle qui nous montre aux besoins universels, qui nous amène à la fin de Romains 3, puis Romains 4, que cette justification-là, c'est par la foi, hein, donnée par l'exemple du patriarche, de David et d'Abraham. Abraham, c'est négatif. Tu sais, heureux celui à qui tu n'imputes pas le péché. Donc, tu sais, la justice de Dieu, c'est de ne pas être traité selon ce qu'on mérite. Puis Abraham crut à Dieu, on l'a vu ce matin, et cela lui fut imputé à justice. Donc, pas se faire imputer notre péché, mais se faire imputer à la place la justice de Dieu. Donc, tout ça, c'est l'ouverture. Puis là, on arrive dans Romains 5. Et Romains 5, c'est tellement important pour comprendre la dynamique de ce qui suit. Romains 5 nous parle du problème universel, du péché puis de la mort. Bon, ça commence aussi en parlant bon, des conséquences de la justification par la foi au début. Mais à partir du chapitre, du verset 12, hein, est-ce qu'un connaît Romains 5, 12? Comme la mort est rentrée dans le monde par rien qu'un, ça n'en prenait pas plus. Et la mort s'est répandue sur tous les hommes. C'est ça le problème. Il y en a un qui est tombé dans le pétrin, puis on est tous tombés dans le pétrin. C'est notre union avec Adam. Comme Adam a péché, nous avons tous péché, nous étions en lui. C'est notre tête fédérale. Là, c'est de la théologie, c'est un terme simplement pour parler qu'il est notre représentant. Il est le représentant de l'humanité, c'est le premier humain. Donc, il représente toute l'humanité. Toute l'humanité, pour prendre une image biblique, était dans ses reins. OK? C'est drôle, là, mais c'est une expression qui était utilisée, mais bon. Et donc, ça nous explique dans Romains 5 comment, ben, ça, c'est le problème universel. Puis après ça, ça fait tout le parallèle parce que ça nous introduit à l'union avec Christ. Puis comment, là, ça fait beaucoup des comparatifs. Même si c'est un bout, c'est pas évident à comprendre parce que là, comme par un, il y avait ça, puis là, tu sais, puis Paul, enfin, il fait son énoncé dans le verset 12, puis il ouvre une parenthèse, puis dans sa parenthèse, il ouvre une autre parenthèse. Paul, il avait le tour. Tu sais, c'est pas pour rien que Pierre ait dit « Et notre bien-aimé frère Paul, dont certains passages difficiles à comprendre, il y en a qui tordent le sens. » Puis ça, ça n'est un Romains 5. Tu sais, faut que tu t'assoies, puis là, tu regardes. C'est toute logique, là, c'est implacable. Ben, c'est le Saint-Esprit, là. Mais c'est ça. Dans le fond, ce que ça l'explique, ce passage-là, ben, la mort d'Adam a affecté tout le monde. Ben, la justice de Christ va affecter, tu sais, va affecter pas tout le monde de façon universelle, que tout le monde va être sauvé, ça n'enseigne pas l'universalisme, mais certainement que son œuvre de grâce a un impact sur toute l'humanité, mais ça nous parle que beaucoup en bénéficient dans le fond par la foi, et c'est pour ça qu'à la fin de Romains 5, ça nous dit, puis là, on a justement cette loi-là, là. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. On va parler de ça plus dans les prochains messages, quand on va voir le rôle de la loi, là. Mais on s'entend que, dans le fond, l'idée, l'offense abonde, c'est pas comme d'une donnée la loi, puis là, ça nous a rendu pécheurs. Non, d'une donnée la loi pour que ça révèle notre péché. Ça n'a rien inventé, la loi, ça l'a juste révélé. OK? C'est ça le rôle de la loi. Donc, pour que l'offense abonde, puis ça dit plus tard aussi pour que le péché soit condamnable au plus haut point, dans le sens qu'on voit vraiment que le péché, c'est grave, puis que c'est pas rien, Dieu le révèle toute la laideur et l'ampleur du péché avec la loi. Donc, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La grâce a... j'ai sauté une ligne. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort. Là, c'est tout le background d'Adam. Là. Adam, il a amené la mort, mais ça a amené tout le péché aussi. Le péché a régné par la mort. Puis là, regardez. C'est là, c'est vraiment important. Ainsi, la grâce règne par la justice, notre thème central de Romains. Puis comment qu'elle règne? C'est par la justice. C'est pas parce qu'on est bon, c'est pas parce qu'on a fait de quoi, c'est tout à cause de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ça l'amène, le règne de la grâce. Ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, pour la justice de Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur. Bon. Ça, c'est important à comprendre parce que c'est ce qui nous lance dans Romains 6. Parce que là, dans le fond, ça dit... La mort régnée par Adam, la grâce règne par Jésus-Christ, sa justice, la justice qui est imputée par la foi. Deux règnes, un règne de mort, un règne de vie, un règne de péché, un règne de justice. OK? Puis là, ben, Romains 6, vous savez c'est quoi? C'est la mauvaise conclusion. Bonne compréhension du principe de départ, mais on en parlait, Geneviève, amener ça trop loin. Souvent, l'hérésie, c'est ça. On parle de quelque chose qui n'était pas si fou, mais on amène ça trop loin. Regardez chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Hey, la grâce règne, tu sais. Hey, c'est merveilleux en Jésus-Christ. Il pardonne. Fait que, ben, je vais pécher, ça va montrer, là. Justement, comment? Hey, le péché abonde, mais vous allez voir, là, ça va montrer comment la grâce surabonde. Fait que, tu sais, ça ne part pas d'une idée totalement déconnectée de la réalité. C'est, OK, là, je comprends vraiment la grâce de Dieu, c'est grand, là, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fait que, mauvaise conclusion, ben là, je vais pécher, ça va vous montrer la grâce. T'sais, bonne compréhension de départ, mauvaise conclusion. C'est pour ça que ça dit, loin de là. OK? Qu'il n'en soit pas ainsi. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché? Puis là, c'est là qu'on voit vraiment la doctrine tellement fondamentale de notre union avec Christ. À sa mort, à sa résurrection, puis là, on a vu ça dans les détails. Maintenant, quand ça nous dit au verset 1 du chapitre 7, là, on fait un saut en avant, hein? « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Des fois, on ne le voit pas aussi vite que ça, là, mais Il y a notre union avec Christ qui est exactement impliquée là-dedans, parce qu'on le voit dans le développement, là, mais si je suis vivant en Jésus-Christ, je suis mort au péché, mais je suis aussi mort à la loi. C'est ça que ça va expliquer. J'ai vu mort au péché dans Romains 6, ça va nous dire, maintenant je suis mort à la loi. Ce n'est plus mon autorité. Je ne suis plus sous le contrôle. Je suis maintenant, j'étais marié, puis c'est ça que j'avais toute l'image du mariage. J'étais marié à la loi, j'étais légalement lié à la loi en tant que pécheur. Maintenant, j'ai été affranchi, je suis légalement lié à Christ. J'ai une nouvelle alliance qui régit ma vie. OK? Donc ça, là, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ça le contexte général dans Romains, toute la ligne de pensée qui est suivie. Mais voici un élément que je dois rajouter. Le thème de Romains, c'est la justice de Dieu. On s'entend que la seule façon d'avoir la justice, c'est par Jésus-Christ, au moyen de la foi. Et que cette justice-là, c'est par la grâce de Dieu. OK? La grâce règne par la justice, OK? C'est toute l'œuvre de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Puis, Romains 6, ça nous montre comment c'est ça. On ne prend pas le péché à la légère, on ne veut pas l'excuser parce qu'on est mort au péché, on a un nouveau maître, OK? Puis, Romains 7, l'idée de base, c'est que si je veux que la... Parce que là, c'est quelqu'un qui comprend, OK, le règne de la grâce par la justice. C'est quelqu'un qui veut la justice, mais qui ne veut pas de la bonne manière. Il la veut de façon indépendante d'une relation avec Dieu, de son union avec Christ. Il veut retourner à la loi, il veut retourner à la chair, à la force du bras de la chair pour essayer d'accomplir la justice de Dieu. Le constat de Romains 7, ça ne marche pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? On est avec un corps qui est enclin vers le péché. Oui, on est mort avec Christ, puis la puissance du péché a été brisée, mais... j'ai beau mettre toutes les règles, d'essayer bien fort de tout mon cœur, la loi ne peut pas me secourir pour la sanctification. C'est vraiment ça l'idée de Romains 7. Romains 6, c'est on laisse tout faire, on fait n'importe quoi. Romains 7, c'est le contraire, c'est vraiment fort, on va tout régimenter pour être sûr de ne pas pécher et que la justice vraiment soit là. OK? Donc, bonne intention, mais encore là, mauvais moyen. OK? Puis bon, il va développer ça, on va le regarder à travers les messages qu'on considère dans Romains 7, là, mais ça m'amène à revenir à la question qu'on a vue déjà la semaine passée, les deux dernières semaines. La fameuse question ce qui est impliqué dans le chapitre 6, verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes... non sous la loi, mais sous la grâce. » Sa réponse est que c'est quoi ça veut dire ne pas être sous la loi, mais d'être sous la grâce? Voyez-vous comment ça se tient? On est sous le règne de la grâce, on n'est plus sous la loi. Mais là, ça l'amène. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. C'est quelque chose de bon là, de ne pas être sous la loi. On a été libéré, on est maintenant sous la grâce. On a été dégagé de l'emprise de la loi, de sa seigneurie. On n'a plus ce maître-là impersonnel et implacable. Intransigeant. Il n'y a pas de passe-droit avec la loi. Là. Tandis que le règne de la grâce, on est avec celui qui est le bon berger, qui nous conduit, qui vit en nous. OK? Et donc, c'est vraiment un contraste entre, ici, ça dit deux époux, on pourrait dire deux seigneurs, deux maîtres, deux autorités. Et donc, c'est ça ici, l'idée que, c'est ça. Pourquoi le péché n'a plus de pouvoir? Parce que je ne suis plus pris par moi-même à essayer de me débarrasser du péché dans ma vie. J'ai celui qui vit en moi, puis qui, lui, par sa grâce, me donne la victoire sur le péché. Un point qui est important à amener, puis dans le fond, Romains 7, ça veut répondre à ça. Connaissez-vous l'expression « antinomien »? Être antinomien. Anti, c'est contre, et nomos, c'est la loi. Contre la loi. Là, il y a des gens qui, encore là, vont dire, on est dégagé de là, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de loi, plus d'Ancien Testament, c'est tout bon pour la poubelle. Non, parce que la loi, elle est bonne et elle a un but, mais il faut en comprendre l'usage. C'est-à-dire que, par exemple, on lit au verset 12, « La loi, donc, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Verset 13, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que le commandement par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et ça, c'est certainement obligatoire dans la vie d'un perdu pour qu'il arrive à Christ. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, la loi nous rappelle constamment que nous ne sommes pas autosuffisants, qu'on a constamment besoin de la grâce de Dieu. Autrement dit, la loi nous rappelle, essaye pas toi-même. Ça va pas marcher. La loi nous rappelle que les efforts de la chair, parce que la chair, c'est l'indépendance de Dieu, puis ça, je peux essayer de l'avoir par la loi. C'est ça, le légalisme, l'hérésie des Galates, avoir commencé par l'esprit, finir par la loi, ben ça va mener à l'échec, c'est sûr. Comme ça va le dire à un perdu, la loi te montre comment t'es perdu, mais à un chrétien, ça répète toujours que t'es pas capable par toi-même, t'as besoin de la grâce de Dieu. Okay? Donc, on n'est pas antinomien, mais on comprend que la loi a son rôle de nous rappeler notre incapacité, mais on n'est plus sous cette loi. C'est pas comme, OK, la loi, je vais essayer, mais là, avec l'aide de Dieu. Ça, c'est une mauvaise compréhension de la loi. Maintenant, c'est pas, j'essaie, OK, Dieu, là, je fais ça, là, tu sais, j'ai toutes mes bonnes intentions de ma chair, là, j'ai tout vu ça. Peux-tu m'aider à faire ça? Non. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'avec la loi, je peux devenir l'initiateur. Vous dites, mais un chrétien, ça fait ça, puis moi, j'ai déjà qui m'ont dit ça. T'as pas besoin de prier puis de chercher le Seigneur? La réponse est déjà dans la Bible. Autrement dit, prends les choses entre tes mains, là, c'est déjà dans la Bible. C'est justement ça le problème. C'est que je peux prendre la bonne loi de Dieu, m'arriver à quelqu'un, puis arriver, paf, avec une bonne taloche d'en face, puis ah, c'est la parole qui dit ça, mais j'ai agi par la chair. Je me suis pas attendu à Dieu, j'ai pas... Comprenez-vous? J'ai peut-être fait la bonne affaire, mais certainement pas de la bonne manière. Je me suis pas attendu à Dieu. J'ai été l'initiateur, j'ai été celui qui avait les choses en main. C'est ma chair. OK? Donc, la loi ne me dirige plus. C'est ça l'idée de comprendre. On est sous la grâce. Si Dieu me dirige quelque chose à faire selon sa parole, c'est lui qui va me diriger tout comment il veut que j'ai... Parce que, tu sais, c'est ça, on la met pas de côté. Là, je veux dire, quand ça dit dans la Bible, par exemple, « Honore ton père et ta mère », ben, c'est encore bon pour tous nous autres. Là, on est tous appelés à honorer notre père et notre mère. Mais, tu sais, c'est pas comme... Ah ben là, c'est de même, puis tu sais que je vais dépendre de moi pour le faire. Le Seigneur va montrer comment. Il va m'enseigner. Mettons, si mes parents ne sont pas sauvés, toute la dynamique que ça implique. Vous savez, quand des parents pas sauvés, c'est pas évident. Le Seigneur nous enseigne comment honorer nos parents non chrétiens. Puis des parents chrétiens aussi, des fois, c'est d'autres défis avec des parents chrétiens. Puis tu sais, je veux dire, tu honoreras ton père et ta mère. Toutes les implications de comment ça se fait, mais c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est... C'est le qui, c'est lui qui nous l'enseigne. Comprenez-vous? Fait que je ne suis plus sous la loi, je suis celui qui me dirige dans toutes ses voies. OK? Fait que tu sais, c'est ça, on n'est pas antinomien, c'est pour ça que je voulais dire, tu sais, vous autres, vous croyez plus à... Vous êtes tellement sous la grâce, vous ne croyez plus à la loi. Ben non, moi, j'honore mes parents. Puis tu sais, comprenez-vous, je vole pas... Tu sais, je veux dire, ça reste bon, c'est encore valide, là. C'est pas parce que, tu sais, ah, on est des chrétiens maintenant, on peut faire ce qu'on veut, puis Dieu pardonne tout, là. Ça serait Romains 6, OK? Bon. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre le temps d'expliquer, parce que souvent, c'est, comme j'ai dit, il va y avoir de la confusion. Une autre chose aussi, souvent, puis celle-là, je l'entends particulièrement en ce moment dans le ministère de prison, parce que j'ai des, pour ne pas nommer, là, des Adventistes du septième jour, qui sont, dans le fond, l'hérésie galate moderne. Tu sais, c'est « commence par la grâce, finisse par la loi ». Tu parles à un Adventiste, là, il va dire « ben Jésus, c'est ça le sauveur », puis là, 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 puis... Mais là, tu l'écoutes parler après, la sanctification, là, ben là, justement, eux autres, là, tu sais, ils sont beaucoup sous la diète de l'Ancien Testament, là. Tu sais, dire « ben là, tu sais, Lévitique 11, là, c'est pas mal notre menu, ça, là, là tu sais. Fait que si un animal a le pied fendu, puis bon... Fait qu'ils vont vraiment marcher par ça. Tu sais, tout 500 et tout ça, mais je crois, je suis convaincu, on n'est pas tenu aux lois cérémonielles et diététiques de l'Ancien Testament. Ces choses étaient l'ombre. Ça pointait tout à Christ, là, qui lui est l'accomplissement de toutes ces choses. Ça n'a plus sa raison d'être. Même, savez-vous, tout pointait à Christ. Savez-vous qu'un prêtre, là, comment il était habillé, là, un sacrificateur, là, c'était tout christocentrique, là. Fait que j'ai pas besoin de venir ici à Biantoge avec un éphod. Parce que ça, c'est tout accompli en Christ. T'sais, l'éphod, c'est proche du cœur. T'sais, c'est les tribus d'Israël. T'sais, sont sur le, t'sais, les tribus sont proches du cœur de Dieu. T'sais, il y a toute une symbolique dans chaque détail. C'est fou, puis blanc, c'est la justice. Puis, t'sais, ça pointe tout à Jésus-Christ. Puis c'est accompli en lui. Ça n'a plus sa raison d'être. Donc, toute la loi cérémonielle et tout ça qui était temporaire pour un temps, qui était l'ombre des choses à venir, s'est passé. Mais la loi morale est toujours en vigueur, mais encore là, il faut juste comprendre comment. Là. Pas comme moyen de s'appuyer là-dessus pour grandir dans le Seigneur, mais comme moyen légitime. Dans, je veux dire, quand on dépend de Dieu, il va nous diriger selon ces choses-là. Là. Il va nous être dans nos rapports avec les autres. Il va nous amener à être humble lorsque... on est en faute. Ça fait toute partie de la loi morale. Là. Vous allez voir, c'est plus que juste les 10 commandements. Là. C'est ce qu'on appelle la loi morale. Bon. Un autre point clarifié. Donc, c'est ça. Si on veut le résumer, dans le fond, Romains 7, c'est le danger de dire, ben, le péché, c'est certainement un mauvais maître. Mais on va essayer un nouveau maître, tiens, la loi. Fait que là, t'sais, ça paraît pas mal mieux, là. Mais la réponse de Romains 7, non, c'est pas encore le bon maître. Il y en a juste un maître, c'est le bon berger. C'est Dieu, puis... Comprenez-vous? Fait qu'on est comme un peu plus proche à Romains 7, tu sais, c'est comme... Ben là, tu sais, la loi, je veux dire, c'est bon, là. Oui, mais pas pour être ton maître. Hein, tu sais, ça le dit, là, elle est bonne, elle est sainte, tu sais. En tant que tel, on n'a pas de reproche à la loi, mais elle n'est pas faite pour être notre maître. La domination de la loi était finie. Parce que quand elle dominait, c'était pour nous amener à celui qui est le maître. Tu sais, la loi est juste pour nous conduire. T'sais, la loi est un pédagogue pour nous amener à Christ. Okay? Donc, on peut dire ensemble que c'est vraiment ça ici l'idée de Romains 7, de comprendre dans son contexte. Donc, si je le dis dans les mots pour la fin de Romains 5, ben, pour que la grâce règne dans ma vie par la justice, ça va être par Jésus-Christ, c'est comme il est écrit, ça ne va pas être par la loi que Jésus-Christ... T'sais, que Jésus-Christ a accompli, puis tu sais, la loi parfaite de Dieu, non, ça va être par Jésus-Christ. OK? Un autre point, puis comment. Je vois. J'ai encore juste. J'ai presque terminé. Comprendre c'est quoi être sous la grâce, quand on a la lumière de tout ce que je veux dire là, que j'ai dit là. Ben c'est comme ça dit à la fin du verset 6, c'est d'être sur un nouveau régime, un nouveau ministère, une nouvelle administration. Tu vois, on voit ça dans un restaurant, là, nouvelle administration, ça veut dire, tu sais, les autres avant, ils étaient poches, puis ils avaient fait des plaintes, puis ils les aimiez pas, là, ben là, c'est une nouvelle administration. Ben, tu sais, dans notre vie, quand que... C'était la loi qui administrait. Hey, c'était des temps difficiles. Là. C'était Pharaon qui demandait tout le temps plus. Là. C'est ça un peu l'idée de la loi. C'est implacable. Là. Ça dit tout, ça veut tout le temps la perfection. C'est pour ça qu'il y a des perfectionnistes qui se tuent avec la loi. Parce qu'ils veulent vraiment l'atteindre parce qu'elle est parfaite. Puis ils disent, oui, comprenez-vous? Il y a une nouvelle administration. Tu as celui qui ne va rien contre la loi, mais il donne la capacité... Il te dirige, il te donne la force, il donne tout ce que tu as besoin pour accomplir, comme on a vu dans Romains 8:4, hein, afin que la loi soit accomplie en nous qui marchons par l'esprit en dépendance à Dieu et non par la chair en dépendance à soi. OK? Donc ça, c'est la bonne compréhension d'être sous le règne de la grâce. C'est ce qui nous amène à Romains 8. Donc, je dirais, pour l'amener dans... des termes qui vous sont peut-être... Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Romains 7 est un passage peut-être douloureux, mais nécessaire, voire obligatoire, vers Romains 8. Où je l'ai entendu de même, j'ai aimé ça. Romains 7, c'est des chrétiens qui ont pas cru à Romains 6 pour arriver direct dans Romains 8. Ils ont pas cru qu'ils étaient morts au péché. Ils ont pas cru qu'ils étaient vivants pour Dieu, fait qu'ils essayent encore un peu plus. Comprenez-vous? Fait que Romains 6, c'est tout bon, mais là, tu peux arriver. OK, j'aurais été prêt pour Romains 7, mais tu as besoin de comprendre c'est quoi que ça veut dire vraiment d'être mort au péché, vivant pour Dieu. OK? Fait que ça va tout ensemble. C'est un tout qui se tient. Puis j'aime tellement comment Saint-Esprit il dirige, parce que c'est comme quand ça arrive à la fin du chapitre 5, ça fait une grande déclaration, la grâce règne. Puis là, Saint-Esprit, qui connaît le cœur humain, anticipe les deux tendances de la nature humaine. Un qui va, là, ah, ben le péché, c'est pas grave, on va faire n'importe quoi. Puis l'autre, ben là, on va vraiment essayer fort de pas pécher. Puis il donne la réponse parfaite aux deux. Puis ça nous amène ensuite à être prêts à rentrer dans Romains 8. Tu sais, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, là. Fait que les deux tendances d'un bon pis d'autre qui nous empêcheraient de vraiment s'approprier puis rentrer dans la marche par l'Esprit qui est dans Romains 8, ben en partant, le Saint-Esprit nous claire ça, puis ça nous amène à comprendre les choses de manière à ce qu'on puisse vivre pleinement Christ, notre vie, par la foi. Et la foi, c'est pas la chair. La foi, c'est la dépendance à Dieu. C'est pas la dépendance à soi. Et c'est toute seule l'idée. C'est ça le problème de Romains 7. C'est d'essayer par soi-même de plaire à Dieu, par soi-même de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est pour ça que ça marche pas. Comme je l'ai dit, un non-sauvé va se rendre compte de ça. La loi va dire « Tu peux pas te sauver toi-même. » Ben la même loi va dire à un sauvé « Tu peux pas te sanctifier toi-même. » C'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas mal tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Avez-vous des questions? Oui, Jean-Pierre?
Qu'est-ce que tu répondrais à un adventiste qui te dit oui, là, toute la loi est là et tout ça, puis ben seulement qu'est-ce qu'on fait du sabbat? Si tu dis oui, toute la loi est bonne, ben, tu mets de côté le sabbat. Moi, j'ai en tête que je me dis, bon, Christ est notre sabbat.
Moi, je réponds en ne répondant pas. C'est-à-dire, je l'ai eu celle-là, là. Mm-hmm. Sabbat, puis là. La réponse typique, là, c'est qu'ils vont dire, hey, là, Sunday, là, c'est le jour du soleil, c'est païen, puis bon. Mm-hmm. Moi, je rentre même pas là-dedans. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'est pas tant. Tu sais, pourquoi tu dis samedi absolument? Le Seigneur a dit que le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit puis en vérité. Tu sais, l'affaire d'insister sur le sabbat, là, puis tu sais, puis moi, je pourrais être mon bord, ben non, je vais insister sur le dimanche, puis tu sais, je pense qu'il y a des preuves bibliques du dimanche, ça dit quand vous rassemblez le premier jour de la semaine, là, puis bon. Puis Jésus a fait toutes choses nouvelles, tu sais, puis la fin de la création, il s'est reposé, mais Jésus a fait toutes choses nouvelles, il a recommencé une nouvelle semaine. Tu sais, il y a plein de... Mais je vois pas là. Ce que j'amène plutôt, c'est, ben, tu sais, le pourquoi des choses. Pourquoi t'insistant sur le sabbat? Parce que tu dis que c'est comme ça que tu vas plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu en se rassemblant un samedi ou un dimanche ou un lundi. Tu sais, mettons des pays là, que, je sais pas moi, il y a des conditions extraordinaires qui font en sorte que, mettons, les chrétiens pourraient juste se rassembler le lundi. Là. Mais savez-vous quoi? Ils pourraient adorer le Seigneur en esprit et en vérité en église le lundi. Tu sais, c'est pas comme... C'est parce que ça n'en parle, il y en a qui observent les jours. Ça fait partie de la loi, justement. Il y en a qui observent les jours. Fait qu'au lieu d'aller là puis de rentrer dans son piège, ben, tu y vas sur la nature spirituelle, la chose d'adorer en esprit par vérité, puis ça, c'est comment? Comment qu'on plaît à Dieu? C'est par la foi. Mais je vais pas aller lui dire, ben, tu sais, si tu fais ça pour plaire à Dieu le samedi, mais c'est que des fois, ils peuvent être confus parce que là, ben, ah, ben oui, c'est par la foi que je le fais, mais en fait, la réalité, c'est que souvent, c'est, tu sais, c'est une suffisance, là, tu sais, on fait ça, Dieu est content parce que, tu sais, comme on le vit avec beaucoup avec les mesures, je fais ça, donc Dieu est content, j'adore le samedi, donc Dieu est content. Non, on plaît pas à Dieu avec ce qu'on fait. C'est juste Christ qui a fait ce que ça prend pour plaire à Dieu. Nous, c'est en nous confiant dans ce Dieu-là qu'on y plaît. Fait que le jour, c'est comme un peu un piège. Comme un, ça nous amène en dehors de ce qui est la question principale de la foi, de la confiance en Dieu, puis de l'adorer. Mm-hmm. Comment? Oui, Dave?
Ah, ben c'était juste par rapport. Tu sais, Jésus lui-même, il a dit le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme.
Ouais.
Tu sais, c'était... Je pense que Jésus, il faisait un peu dans le même sens que tu disais, tu sais, de montrer que justement le problème, c'était pas la journée, mais c'était que, tu sais, il voyait ça comme, ah, oh, ben, cette journée-là, tout est sanctifié, puis le reste du temps, tu sais,
ouais.
ça a aucun rapport. Puis aussi, même dans les Épîtres, ça dit, reconnaît les journées, puis tout ça, puis l'autre, ouais. Ils estiment tous égaux, puis. Dans le fond, il est en train de dire ça ne change rien.
Ouais.
C'est pas la journée elle-même.
Oui, parce que là, tu réfères à Romains 14, c'est très pertinent, mais aussi Ésaïe 58. Tu sais, parce que là, ils se plaignent, dans le fond, ils disent « Hey, Dieu, on sait tout, on jeûne, puis on fait toutes ces affaires-là, puis ça donne rien. » Et là, Dieu leur dit « Mais c'est pas le jeûne que je prends plaisir. » Autrement dit, vous faites une bonne affaire, mais vous êtes mal disposés. C'est pas par la foi que vous voulez votre nanane. Puis ça n'a pas... Dans Ézéchiel aussi, ça dénonce ça. « Hey, Dieu, on fait ça, on est supposé avoir quelque chose, tu sais. » Dieu, c'est pas une banque à piton, là, tu sais, que tu pèses un piton, puis il sort la bénédiction. Tu sais, le juste vivra par la foi, là, tu sais, puis... Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, je dirais, l'esprit dans lequel c'est fait. Puis, Ésaïe 58, c'est un très bon passage là-dessus. Là, parce que c'est par rapport à, justement, à la question du jeûne et du sabbat. Puis, tu sais, ils comprenaient pas, ils se plaignaient parce qu'ils comprenaient pas. Ils s'attendaient que, tu sais, hey, Dieu, on a fait notre BA. Mais là, pourquoi tu nous bénis pas? Ils craignaient pas l'Éternel, tu sais. Puis, Dieu le dit, là, ben, vous frappez, là. Tu sais, ça faisait dur leur affaire. D'un jour de jeûne, ils se faisaient dessus, puis ils se criaient après, là. Tu sais, Dieu, tu réponds pas, ben tu prends un peu comme tu prends l'attitude. C'était comme assez évident. Ouais. Ésaïe 58. Oui, Josiah.
C'est intéressant de voir la différence entre Romains 6 et Romains 7 parce que je vois souvent les gens qui vivent dans Romains 6, c'est des gens qui ont des bons raisonnements mais qui font des mauvaises choses. Mais les gens qui vivent en Romains 7 qui n'ont pas des bons raisonnements mais qui font des bonnes choses. Et souvent, c'est des réactions.
Ouais.
Quelqu'un a vu, ah, t'as pas rapport, t'as pas raison, tu fais des bonnes choses avec des mauvaises intentions.
Mm-hmm.
Et le renverse, c'est d'avoir des bonnes intentions, mais de faire n'importe quoi. C'est pourquoi c'est important d'avoir l'équilibre entre grâce et vérité. C'est intéressant de voir ça avec ces deux chapitres.
Ouais, absolument. C'est vrai, c'est vraiment deux tendances humaines, deux façons, deux tendances de la chair. La chair se réfugie d'un bord ou de l'autre, mais c'est pas... Pensez-y, la chair, c'est dépendance à soi. Ses raisonnements, puis tout ça. On peut prendre la bonne loi de Dieu ou les bons raisonnements humains, mais la chair, ça reste la chair. T'as beau y mettre une bible dans les mains, t'as beau y mettre un beau sourire, puis la faire chanter Kumbaya, la chair, c'est de la chair. C'est-à-dire... Amen! Excusez-le. Hey, vous avez pas d'autres questions? Ben, on va prier.